Radio Campus Lille, 18h.
Hey Radio Campus, je suis Peter Solo de Vodgame. Ben, belle année, 50 ans c'est pas rien du tout. Et la force à vous, on vous soutient. Merci, merci beaucoup. La force.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Et comme tous les dimanches de 18h à 19h, vous êtes avec nous sur Radio Campus 106.6. Et pour animer cette incroyable émission aujourd'hui, nous sommes trois. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de...
In extremis, nous sommes quatre.
Et qui arrive vraiment au dernier moment à...
J'arrive toujours en retard aux émissions.
Et nous avons un invité surprise, puisque Christophe va venir nous rejoindre, qui nous parlera d'anecdotes d'antan. Et comme d'habitude, nous allons parler et finir. J'espère que nous allons finir aujourd'hui ce fameux dossier Donjons et Dragons qu'on a entamé.
Il y a de ça
4 émissions. Et on a quelques news insolites. On vous parlera de belle musique, puisque Dom a vraiment dégoté des perles sur le net, et notamment lié à l'agenda. Donc ça risque d'être assez sympathique. Je vous propose tout de suite de commencer en parlant un peu de Donjons et Dragons. Puisque nous avons fait les films. Nous avons fait les jeux de rôle. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a fait encore?
Le créateur, on a raconté un petit peu la biographie du créateur, de quoi on a parlé encore. On a passé des belles musiques, on a parlé d'une partie des jeux vidéo les plus anciens. Il y en a encore qu'on doit aborder. La semaine dernière, on a parlé des MMO. Ah, petite vérification, il y a encore deux. J'ai parlé des deux MMO qui étaient encore actifs en ce moment où, dans l'univers de Donjons & Dragons. Il y a DD Online qui est en anglais et en français. Et il y a Christophe qui est en train de déballer ses cadeaux de Noël. Et il y a Neverwinter qui est l'autre MMO. J'ai dit qu'il était qu'en anglais, mais non. J'ai craqué, je l'ai réinstallé, j'ai réessayé. Et il est en français totalement traduit, texte, voix et compagnie.
Ah, donc peut-être une perle à mettre dans l'agenda. Alors, Reynald ne va pas déballer ce magnifique jeu de plateau qu'a ramené Christophe et qui s'appelle Quest for the
Dungeon Master.
Magnifique. Est-ce que tu as déjà testé ce jeu? Est-ce que tu le connaissais, Christophe?
Alors non, j'ai eu l'occasion de trouver ce jeu il y a quelques années en Belgique, mais donc c'est ce qu'on voit, c'est la version anglaise. Il existe une version française du jeu qui est sortie à l'époque.
Que je possède et que j'ai aussi acheté en Belgique.
Je vois la magnifique couverture, la jaquette du jeu de plateau. Elle est magnifique. Mais
celle du dessin animé.
Ces personnages me rappellent quelque chose.
C'est celle du dessin animé.
Bah voilà, je cherchais une photo pour mettre sur l'annonce Facebook de l'émission, c'est trouvé.
Est-ce que
tu dis ça parce que tu veux réécouter du Dorothée?
Oh, tout de suite.
Elle date de quand cette édition?
Alors, vu que c'est la version anglaise.
Vu les couleurs, je tape en dessous des années 80.
1984.
Voilà. Alors qu'en France, la série est arrivée en
86,
sur Antenne 2, sous le titre Le Sourire du Dragon.
Exactement.
Même si depuis, pour l'édition DVD ou les rediffusions sur le câble, on avait retrouvé son nom d'origine, Donjons et Dragons.
Mm-hmm. C'est ce qu'on avait dit, parce que Donjons et Dragons, à l'époque, ça faisait encore un petit peu peur aux parents. Tandis que la série originale, anglaise, s'appelle vraiment Dungeons and Dragons.
Voilà. D'autres dessins animés que tu as peut-être le souvenir, puisqu'on en avait parlé la semaine dernière, mais et il sort, attention, de son cinquième liste de 53 magazines.
C'est Sport Billy, avec son sac magique.
Est-ce qu'on va allumer la platine à vinyle de Campus?
Alors là, c'est un laserdisc, donc ça va être compliqué, mais... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'arrivée en France de Donjons et Dragons, Le Sourire du Dragon, on a eu le droit à Noël 84, toujours dans Recreado sur la deuxième chaîne, à un long métrage d'animation américano-japonais qui s'appelle en France Le Vol des Dragons, ou Le Vol du Dragon. et qui est une production qui a été réalisée en 1982. Et alors, bizarrement, aux États-Unis, elle n'aura le droit qu'à une diffusion à partir de 1986. Donc, on l'a finalement découvert en France avant les Américains. Et donc, cette œuvre, a été diffusée en épisode, découpée en 4 épisodes.
C'était pour la télévision, c'était pas pour le cinéma.
Non, alors c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on a on est face à un film qui est vraiment d'une très grande qualité.
Bon, c'est bien, c'était magnifique.
Tant au niveau de l'histoire que de l'animation, qui est faite avec un studio japonais bien connu, en tout cas certaines personnes ont travaillé dessus, et une musique aussi avec des gens assez connus. Donc bref, un très beau film, qui est d'un point de vue animation bien plus réussi que Le Sourire du Dragon. Même si Le Sourire du Dragon, la série, a été coproduite aussi avec les Japonais, avec le studio Toei Animation, que l'on connaît bien.
Sur le peu d'images qu'on peut voir, c'est vrai que les persos sont beaucoup mieux dessinés. Hein, en tout cas, c'est l'impression. Par contre, j'ai vu un dragon qui était rose. Rose bonbon.
Alors, c'est le côté japonais.
Oui, dans Le Sourire du Dragon, dans Le Vol du Dragon, on a plusieurs dragons qui sont présents et ils sont tous très bien dessinés. Alors, il faut savoir que c'est une œuvre qui est tirée d'un roman américain, The Flight of the Dragon. Mais finalement, donc, cette œuvre, elle est assez peu connue, même si aujourd'hui, aux États-Unis, le Blu-ray a été édité, mais on trouvera peu de choses écrites ou même illustrées sur le sujet. Contrairement à l'inverse, à Le Sourire du Dragon, qui lui a profité de la popularité déjà aux États-Unis, puisque le Donjon et Dragon, c'est quand même américain, mais aussi, je pense, à la diffusion en France, elle a bien marché. Et donc ça a bénéficié puisqu'on a eu droit à des livres, différents types de livres. On a eu un jeu de société, donc on a le 45 tours évidemment puisque c'est Dorothée quand même.
C'était une bonne époque puisque c'est à ce moment-là, si j'ai pas de bêtises, qu'on a peu eu tous les livres dont vous êtes le héros compagnie. Le jeu de rôle était assez actif à l'époque, même s'il est en train de revivre un renouveau aujourd'hui. Donc c'est tombé au bon moment.
Et alors, on a eu droit aux figurines que je vous ai ramenées aussi.
Il a de tout. Il a un sac sans fond, comme dans les Donjons et Dragons.
Exactement, il a un sac sans fond.
Et alors, apparemment, ces figurines sont assez rares parce que, bon, déjà, une des figurines aujourd'hui, ça peut devenir vite rare, mais apparemment, elles n'ont pas été éditées en Angleterre et aux États-Unis, je ne suis pas sûr. Donc, pour les fans de la série, c'est vraiment une très belle pièce. Alors, ce qu'il faut savoir, cette série, c'est qu'elle a quand même connu 3 saisons. Alors en France, on s'en rend pas compte puisqu'on a 27 épisodes d'un seul bloc.
22 de mémoire.
27. 27 épisodes de 22 minutes.
22 ?
Ouais.
Parce que je me rappelle des DVD, mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant.
Et donc aux États-Unis, en fait, la série a été diffusée sur trois périodes de temps, à partir de 1983 jusqu'à 1985.
Ce qui est sympa, c'est que si tu joues au jeu de rôle, bon, tu pourrais presque utiliser les figurines, mais elles sont un petit peu plus grandes que les figurines traditionnelles d'un jeu de figurines, quoi.
Donc, c'est vrai. Ça serait un très très gros dragon.
Le dragon est un peu petit.
Ouais, mais on en revient toujours à des miniatures où ton dragon fait la taille d'une roue de voiture et que ta figurine fait 5 mm de haut et c'est à l'échelle. Donc bon, je préfère ce dragon là du coup.
C'est peut-être un vrai dragon à l'échelle sur une table de jeu de rôle du coup.
Tout à fait.
Mais je vois qu'il y a aussi une figurine de petit poney.
Non, dans la série, tu as un personnage.
Le viking.
Tu as une licorne.
Le barbare.
Voilà. Alors concernant.
C'était pour faire un petit côté cute dans
mais
la série.
Mais c'est ça, on n'y échappe pas. C'est quand même une série pour enfants. Ce qu'il faut noter, c'est que donc à l'époque, le Donjons et Dragons fonctionne bien et les créateurs se disent tiens, il faudrait qu'on développe notre produit au-delà des jeux de plateau. Et donc ils décident de partir à la conquête d'Hollywood. Et donc il y a. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, la première, c'est un téléfilm qui s'appelle Maze and Monsters, qui est tiré d'un roman. Alors là, je pense pas qu'il y ait de lien direct, mais tout cas, on voit que là, Donjons et Dragons était très populaire à l'époque. Il y avait une partie de la population à qui on disait que c'était dangereux.
Exactement.
Hein, avec les aspects occultes. Et donc, il y a des gens qui ont flairé le bon filon et qui ont décidé d'adapter. Donc, c'est un roman qui critique un peu le Donjons et Dragons, l'univers des jeux de rôle, et va décider donc d'en faire une adaptation télévisée. Et ce téléfilm a été adapté et doublé en français, puisqu'on peut aujourd'hui le trouver en DVD. Ça s'appelle Les Monstres du Labyrinthe.
C'est celui avec Tom Hanks, c'est
exactement. Et donc, parmi les jeunes acteurs qui jouent dans ce téléfilm, on a Tom Hanks.
Et alors, l'histoire, je ne me souviens plus, mais oui, c'est ça, c'est une bande de jeunes qui font du Donjon Dragon et ils se font embarquer dans une secte, je crois.
Oui, alors je l'ai vu il y a un certain temps, donc je ne me souviens plus en détail, mais effectivement...
C'est produit par Mireille Dumas, ça, non?
Peut-être, pas loin, mais c'est à la même époque. C'est terrible, quoi. Mon Dieu.
Il y a encore plein de trucs dans le sac.
Oui,
attention.
Alors je vous ai ramené aussi l'album autocollant. Panini. Alors c'est pas un album Panini, parce que souvent quand on dit album autocollant, on pense à Panini, mais il y avait d'autres éditeurs. Le deuxième plus connu s'appelle AG Éducation, mais là c'est en troisième, il est Junior IT. Et donc on a un résumé des principaux épisodes qui sont proposés dans cet album.
On peut même échanger ses vignettes sur Minitel si on veut.
On est d'accord.
Il est complet. Hein.
Tu n'as pas acheté tout ça juste pour l'émission. Hein, tout ça. Et
non, d'ailleurs, aujourd'hui, ces produits-là, majoritairement, vont être très compliqués à trouver. Mais ça montre quand même qu'il y avait un certain intérêt pour cette série. Même si aujourd'hui, est-ce que beaucoup de gens s'en souviennent disons que ça a quand même marqué à l'époque.
De mémoire, je crois que c'était peut-être la seule série française sur le médiéval fantastique en dessin animé.
De cet univers-là, ouais.
Ouais, ouais. C'est vrai que de toute façon, en France, on a été plutôt tardif à découvrir tout ça. Alors les rares qui jouaient au jeu de rôle, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Alors, je tiens à préciser quand même qu'on a eu aussi une émission sur la troisième chaîne, FR3, qui a proposé une émission sur les jeux de rôle. Mmh. Ça s'appelait jeu de rôle, drôle de jeu. C'est très confidentiel puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'émissions.
Je les ai toutes vues. C'est passé pendant l'été peut-être.
Voilà, et donc on suivait des gamins qui jouaient et qui faisaient des parties de jeux de rôle. Donc c'est
parce que maintenant, tu as des centaines de chaînes YouTube de gens qui se filment en train de jouer au jeu de rôle. Comme quoi, flashback.
Et il y a quand même un autre programme qui, moi, m'a beaucoup marqué à l'époque. C'était en été 85, si je ne dis pas de bêtises. Ça passait sur TF1. Le midi, et c'était un jeu interactif qui s'appelait
c'était pas la pirate.
Si, alors ça y est, j'ai un trou.
C'est terrible. Moi aussi, je la vois l'émission. C'était une espèce de.
Il y a labyrinthe dans le jeu.
Je me retenais de la faire. Je me retenais de la faire en plus.
Il y a un petit peu de côté de Hugo Délire dans ce côté-là. C'était simple, il y avait des candidats, puis il fallait qu'ils progressent. Ouais. Une espèce de. Un petit peu comme dans le.
Alors en fait, ça se passait sur.
Je vois ce dont tu parles, mais j'arrive pas.
Donc sur un plateau de télé où on avait deux candidats et un maître de jeu. Et chaque candidat devait se déplacer dans un environnement, un univers différent. Il y avait quatre univers, dont un univers un peu. Il y avait Western, c'était à la mer des sables, c'est tourné à la mer des sables.
Il y avait une espèce d'usine de centrale nucléaire avec des tuyauteries partout.
C'est ça.
Et c'était du labyrinthe. Enfin, ça. Et tu progressais et tu voyais à l'écran une image avec et des couloirs, par exemple, etc. Ou alors tu étais dans le Western, tu avais des portes et le candidat devait dire est-ce que tu entres dans le saloon, est-ce que tu vas plutôt à droite, à gauche, etc.
Il y avait évidemment des monstres. Et donc, si on choisissait la mauvaise case, eh bien, le candidat était pénalisé. Il pouvait perdre ses points de vie. Donc, c'était quand même assez innovant pour l'époque.
Et tu recommençais à chaque fois. Il fallait mémoriser le chemin.
Ça aurait dû percer, ça, comme
Ah oui,
comme
ça a duré qu'une... juillet-août 85.
C'était chiant.
Voilà. Et
le candidat était nul. Tu étais devant ta télé. Tu dis, mais non, c'est à droite qu'il fallait aller. Tu te souviens pas.
Et il y a eu beaucoup d'émissions, malheureusement, pire que ça, qui ont mieux fonctionné
sur
le système d'interactivité, en tout cas.
Après, on a eu, dans un autre registre, mais il y a eu le Chevalier du Labyrinthe, qui était...
Il y a un jeu de société qui est fait suite à l'émission de télé, oui, effectivement.
On retrouvait un peu les principes. Là, c'était plus pour enfants. Et puis bon, de l'interactivité, on en a eu d'autres formes. On a eu aussi Télétactica. Toujours sur d'Henri Cradeux, où là il fallait coller des pochettes.
Tu achetais chez ton marchand de journaux des pochettes de papier qui collaient sur les. Enfin, les télés de maintenant, c'est plus possible, mais les anciennes télés cathodiques, c'était avec l'électricité.
Ouais.
L'électricité statique.
Statique. Donc, si tu mettais un bout de papier sur ta télé, il restait. Donc, tu découpais des formes. Par exemple, à un moment, tu as un personnage qui faisait de se déplacer en voiture. Mais tu voyais que les roues de la voiture, donc tu devais découper ou prendre un morceau de papier qu'on t'avait demandé de préparer, tu le collais à la place et du coup ça faisait le corps de la voiture et t'as le dessin animé autour qui s'animait. Et c'était vraiment.
Sauf que pour les autres, ils avaient le même dessin animé sans les roues.
Bah voilà, ceux qui n'avaient pas les moyens d'avoir des.
Alors il y avait
délivrer des messages. Tu
courais aux toilettes chercher du papier toilette.
Non mais tu pouvais utiliser du papier de.
Tu mettais ta main comme ça, c'était ta main la voiture.
Tout simplement des sacs poubelles. C'était électrostatique.
Et tu te fais engueuler par tes parents, ne touche pas à cette télé, tu vas la faire tomber.
C'est qui va la nettoyer encore?
Pour rester sur les petites anecdotes autour de l'interactivité, on a eu aussi à la fin des années 70, Dominique s'en souvient certainement, un petit programme qui s'appelait TV Labyrinthe. Et également un autre qui s'appelait... ça y est, j'ai un trou. Mais c'est, l'idée, c'était de...
Voir, on a une solution pour toi, on te le donnera après.
On devait dessiner sur un carouillage, voilà. On devait dessiner sur un... On avait un motif qui nous était présenté une première fois sur une grille. Et après,
tu prenais ton papier,
on devait le dessiner au crayon. On nous disait quel trait il fallait faire. Et à la fin, on voyait ce que ça représentait. Donc on a expérimenté pas mal de choses comme ça. Pour revenir...
Alors que maintenant, l'interactivité, bon, tous les gamins, déjà tu regardes ta télé sur ton téléphone ou ta tablette, donc l'interactivité...
En tout cas, oui, on parle d'interactivité, mais Bandersnatch avec Black Mirror avait bien marché, et on sait déjà que des nouvelles séries...
Il y a d'autres séries qui... Ouais.
Pas forcément grand public, c'est-à-dire plus pour des cibles comme les enfants ou d'autres publics, mais c'est le genre de choses qui vont continuer de se développer. Ce qui intéresse beaucoup Netflix, puisque eux, ils peuvent profiler les utilisateurs pour leur vendre encore plus de pubs ou plus de programmes.
Après, j'ai pas l'impression qu'ils continuent à en faire tant que ça. Ils ont fait deux essais, hein, le plus gros avec Black Mirror, où il y avait une grosse interaction sur la troisième ou...
La quatrième série, oui, c'est ça.
Et ensuite, ils ont fait Man vs Wild avec interaction. Ah. Et perso, pour avoir testé, je pense pas que ça va tant que ça plaire aux gens, quoi. Et surtout que quelquefois, bon, tu fais un choix, soit tu veux tous les faire, donc tu vas appuyer vite pour voir d'un côté. Est-ce qu'on va profiler les gens tant que ça? Je ne sais pas.
Par contre, moi, ça me fait penser plus à une essaye d'adaptation de ce qui se passe déjà sur les streams avec Twitch et compagnie, où justement les communautés qui suivent les streamers ont déjà le choix de voter directement. Il y a des jeux qui sont créés pour ça, où si par exemple il y a une pièce, il peut aller à droite ou à gauche, c'est les viewers, donc ceux qui regardent le streamer, qui disent on veut que tu ailles à gauche ou on veut que tu ailles à droite, et lui il se plie aux volontés, donc ça fait des fois des événements complètement absurdes, et t'as une interaction qui est quand même beaucoup plus précise et beaucoup plus fun. Alors que là, sur une télé, tu dis, bon, je vais attendre 10 minutes que tout le monde ait peut-être voté. Enfin, non.
Avant, tu pouvais mettre des annotations avec des liens sur YouTube qui te permettaient justement de naviguer, mais je pense que ça, c'est terminé.
Bah, oui, en fait, parce que tu naviguais de fenêtre en fenêtre. Donc, en fait, tu préparais tes vidéos à l'avance, et après, en fonction de tes choix, tu mettais des petits encadrés qui t'envoyaient sur une prochaine vidéo. Donc là où tu cliquais sur l'image de la vidéo, t'envoyais sur une autre vidéo, pas forcément la même que celle que t'avais cliqué avant, et ça te faisait une sorte de livre dont vous êtes le héros, mais c'était un boulot monstre, il fallait que tu crées 100-150 vidéos pour pouvoir faire ton chemin. Quoi.
Maintenant, même sur la télé, tu as des théâtres qui proposent des pièces interactives, tu commences et le public vote en plein milieu et dit il va se passer ça, etc. Et les acteurs improvisent.
Il y a les cages d'improvisation, notamment ceux de Mark Burwell sont vraiment épiques.
C'est un petit peu différent, parce qu'on propose un sujet et puis voilà, ils improvisent. Là, c'est en plein milieu, tu pars d'une histoire et les gens doivent s'adapter en fonction de...
Non, mais justement, dans le catch, on sort d'une impro un peu habituelle. Ouais. D'autres. Bon, Christophe, écoute, nous, on va aller boire un coup.
Ah, tu veux pas nous faire écouter la bande originale là
du sourire du dragon?
Pas la version française. Hein.
Est-ce que tu l'as encore?
Je ne l'ai plus.
Je crois qu'on l'a passé la dernière fois.
On l'a passé la fois dernière. Ouais. C'est pour ça.
En tout cas, la musique qu'on entend dans Johnny Defin est assez sympathique. Après, pour la série elle-même, j'ai pas en tête, mais. Voilà. Alors, ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que, donc tout à l'heure, je vous disais qu'il partait en quête d'Hollywood pour voir ce qu'il pouvait faire, et il y a eu un projet de film qui ne s'est finalement pas fait, mais il voulait vraiment partir faire quelque chose d'assez épique comme on pouvait avoir à l'époque avec Indiana Jones ou E.T. Est-ce que ça aurait été... on peut pas dire, parce qu'il y a eu d'autres films par ailleurs qui ont existé, qui ont réussi. Je pense à Conan.
J'ai cru qu'il allait dire le film dans Jean Dragon. Sueur.
Je l'attendais au tournant. J'ai dit, vas-y, dis-le. Vas-y.
Le dragon du lac de feu de Disney.
Il y en a beaucoup.
On faisait déjà ça aurait tout à fait pu avoir un très bon film. Ça n'a pas eu lieu, mais en tout cas, la série, elle a existé. Est-ce que vous vous souvenez du générique de la série?
Celui de Dorothée?
Pas le générique chanté, mais ce qu'on y voit, en fait. Puisque finalement...
Sur le dessin animé, tu rentres dans une fête foraine, un train fantôme.
on voit
c'est
le
et après,
personnage
ça part, dans une sorte de vortex. Et,
C'est exactement ça, c'est le scénario. Bon, je peux vous lire le pitch. Un groupe de 6 adolescents décide de passer leur week-end dans un parc d'attractions. Déjà, c'est particulier. En montant dans un train fantôme que leur destinée va basculer et ainsi une fracture spatio-temporelle les projette dans un univers médiéval fantastique, peuplé de sorciers maléfiques, de dragons volants et autres monstres légendaires. Ils font alors connaissance d'un magicien, le grand maître, Dungeon Master en VO, qui va les guider dans leur quête par ses apparitions aussi brèves que spontanées pour leur soumettre de petites énigmes qu'ils comprennent rarement sur le coup, mais qui les sauvent souvent au dernier moment.
Wow. Et d'ailleurs, on n'apprend pas ce qui se passe à la fin du dernier épisode.
Ouais. Donc j'ai revisionné. Donc dans le premier épisode, en fait, on est déjà dans l'univers fantastique, puisqu'en fait, c'est le générique qui introduit et puis
suite au générique,
on rentre directement dedans. Et effectivement, le dernier épisode ne conclut rien, bien que on nous promet ça au début de l'épisode. Je vais vous donner, va vous aider à tourner chez vous, mais finalement, ça tombe à l'eau. Mais une quatrième saison a été en projet, elle n'a finalement pas pu se faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la série aux États-Unis a connu des problèmes de par la popularité de Donjons et Dragons, qui était quand même considéré comme plutôt dangereux pour les enfants, et par certaines scènes qui ont pu
Les parents n'osaient plus emmener leurs enfants dans les parcs d'attractions.
Mais toujours est-il que donc la série a dû être plus vigilante sur la violence. C'est peut-être ça qui lui a joué du tort.
Donjons et Dragons.
Parce qu'en ce moment, il y a la troisième saison de Stranger Things qui vient de sortir là. Et on se calme. Et imagine peut-être qu'ils vont rattraper peut-être dans la quatrième saison de Stranger Things. Et on s'aperçoit en fait les enfants de Stranger Things, c'est peut-être les enfants. Ils vont aller dans un parc d'attraction et
ils vont sortir du train.
J'ai envie de vous demander, avez-vous vu Stranger Things la nouvelle saison?
Pas la dernière.
Je viens de la finir. Et alors là, pour le coup, Donjons et Dragons, on en a droit à l'appel, hein, puisque en fait, déjà dans les saisons précédentes. Mais donc il y a toujours ces éléments-là qui reviennent. Et alors, si vous ne l'avez pas vu, mais sans vous révéler quoi que ce soit, il y a un parc d'attractions dans l'histoire.
Ben voilà. Le mash-up entre...
C'est vrai que ce qui est plaisant en regardant cette série, quand on a grandi dans les années 80, c'est de voir toutes les références. Parce qu'il y a là, par exemple, il y a un personnage qui ressemble comme...
Au fil des saisons, on va arriver dans les années 90 bientôt, là.
Alors là, on est en 85.
Ils vont croiser les petits génies... Ils vont croiser des héros d'autres séries, peut-être.
Mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des références. Je ne vais pas vous donner lesquelles, mais si ce n'est pas, on peut vous parler de Retour vers le futur, puisqu'à ce moment-là, c'est l'année où le film sort en salle.
Tu spoiles l'agenda. Vas-y, continue.
Mais voilà, donc Stranger Things, pour les fans de Donjons et Dragons, oui, c'est sympa aussi.
C'est quoi cette news agenda, là, Dominique?
On va faire tout de suite. Tu parles de Retour vers le futur. Vendredi prochain à Lille, pour ceux qui habitent dans le coin. Sur la place François Mitterrand, donc c'est entre la gare Lille-Flandre et la gare Lille-Europe, pour ceux qui ne connaissent pas. Tous les vendredis de l'été, il y a des événements, des fêtes, des expositions, des concerts, etc. Il y a encore, et le dernier vendredi, c'est le vendredi prochain, donc le 12. Et l'après-midi, il y a des concerts, dont on parlera tout à l'heure. Ensuite, un spectacle de magie en 19h à 20h30. Et ensuite, en plein air à 22h30, projection de Retour vers le futur.
Wow.
En plein air et tout, c'est gratuit normalement, etc.
Il y en a qui vont venir avec leur DeLorean pour regarder ça dedans.
Donc c'est, place François Mitterrand, c'est juste à côté de Lille-Europe.
En parlant de DeLorean à l'extérieur, il faut savoir qu'à Londres, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a... Tous les ans, un spectacle qui a lieu à guichet fermé, enfin en plein air, mais où on va diffuser un film, notamment Retour vers le futur, et il y a des animations avec quelqu'un qui est grimé en doc et qui va se balader. Il y a une DeLorean, etc. Et donc les gens, c'est une sacrée ambiance. Il y a des vidéos
Dans le public et t'imagines, t'as les acteurs, t'as le film qui passe à l'écran, puis t'as un acteur, un comédien qui joue Marty. Par exemple, t'as Marty qui est en train de courir, et t'as le comédien qui court au milieu du public, etc. T'as la DeLorean qui arrive et qui passe au milieu du public à 88 miles à l'heure, etc. C'est impressionnant, quoi. Public, tu es presque dans le film.
Alors, on parle d'ailleurs d'un Retour vers le futur 4. Les acteurs seraient très prêts à reprendre.
Ils ont des impôts à payer?
Sûrement, ou ils sentent la fin venir.
Ils vont voir tout de suite.
Alors on se méfie hein, des quatre lorsqu'il y a une longue pause, hein, surtout en pensant une petite pensée pour Indiana Jones. Et je te laisse continuer, Christophe.
Ben, qu'est-ce que je peux rajouter que... Alors étonnamment, la série de Donjons et Dragons a été diffusée au Japon aussi. Puisque elle a été diffusée en France, elle a été diffusée en Angleterre, mais au Japon c'était un peu plus étonnant puisque quand même le Japon c'est le pays numéro un pour la production de d'animation, enfin séries d'animation de qualité.
Ils ont plutôt tendance à en exporter qu'en importer.
Voilà, et donc il y a quelques exceptions à ce côté-là. Je pense que par exemple G.I. Joe aussi a dû être diffusé là-bas, mais
ça,
bon voilà.
C'est le côté joué ça.
Apparemment, il a été diffusé sur à plusieurs reprises, notamment donc la, sur NHK qui est la chaîne numéro 1. Alors pour donner des exemples, c'est pas la première coproduction américano-japonaise. Hein, il y en a eu pas mal. En fait, beaucoup des séries qu'on a vues, venant des États-Unis mais qu'on a vues en France, en fait, c'était des coproductions. Cosmo Cats est une coproduction, G.I. Joe est une coproduction. Enfin, pour une raison très simple, c'est que produire un dessin animé, ça coûte très cher, et que les Japonais ou les pays asiatiques en général, puisque certaines séries sont sous-traitées aussi dans d'autres pays, y compris au Japon.
Ils ont des usines toutes prêtes à...
Ils ont les compétences, ils ont beaucoup de mains qui est capable de faire les cellulos, parce que l'air de rien, on ne devient pas animateur comme ça. Donc, un des problèmes qu'il y a eu dans les années 80, c'était la quantité de production à produire. En France, on a connu ça aussi, puisque le studio Dick, à qui l'on doit Ulysse 31, les Mystérieuses Cités d'Or, etc., lui-même a travaillé beaucoup avec les Japonais, notamment le studio TMS. Mais quand ils ont voulu attaquer le marché américain, Inspector Gadget notamment, ou les Entrechats, ils ont aussi continué de travailler avec les Japonais. Et ça leur a bien servi puisqu'ils ont réussi à être numéro un aux États-Unis sur le marché américain, ce qui est quand même pas rien.
Ça surprend toujours quand je dis aux gens Liste 31, c'est une série française. Et quoi, on croyait que c'était japonais, etc. Non. C'est...
Alors, puisqu'on parle d'agenda, je peux vous le dire à la fin de l'année, un livre va sortir sur Liste 31. Donc, apparemment, ça sera un très bel ouvrage, plein de photos, enfin plein d'illustrations.
J'ai cru qu'elle allait dire c'est moi qui l'écris, c'est pour ça que ça va être génial. Mais c'est une série qui a marqué beaucoup de gens, tout comme les Mystérieuses Cités d'Or. Il y a toujours des fans qui se remémorent rien que les musiques et les dessins.
Alors effectivement, ce qui est étonnant, c'est que d'un pays à l'autre, parfois on a ou on n'a pas telle ou telle série. Et prenons l'exemple des deux séries, Ulysse 31 et Mystérieuses Cités d'Or. Ces deux séries ont été diffusées en Angleterre, où elles sont très populaires. Par contre, les Américains, eux, n'ont droit eu qu'aux Cités d'Or. Et Ulysse 31, ils ne savent pas ce que c'est. Ça peut s'expliquer certainement par le côté, au niveau de l'histoire qui allait peut-être leur parler. Mais
Ils sont plus proches des Cités d'Or géographiquement que de la Grèce antique.
C'est ça.
Alors, pour refaire un petit point sur l'agenda qu'on parlait tout à l'heure, on pourrait peut-être parler de ce groupe qui va jouer juste avant le spectacle de magie.
Il y a un concert à 12h30 et 17h30 par le groupe Autotune. Moi, le nom me disait quelque chose. Bon, je vais le prendre, mais j'ai bien fait d'aller voir. Parce que la semaine dernière, nous avons passé un album de DJ Zebra, un spécialiste de mash-up et de bootleg, etc. Et ben Autotune, alors ça s'écrit auto comme une auto, Tune, T-H-U-N-E. C'est un groupe français qui s'amuse à faire des...
Ils s'amusent déjà. c'est clair qu'on va passer un bon moment avec Autotune, mais ils ont aussi une capacité et une envie de reprendre et de faire un petit mash-up sur certains titres extrêmement connus, mais avec des... Enfin, c'est les extraits qu'on a, c'est notamment avec Johnny Hallyday.
Ah en fait, c'est très simple. Tu prends la chanson de Johnny Hallyday, la plus connue, Allumer le feu. Allumer le feu, allumer le feu. Puis tu prends une autre chanson connue, à la queue le-le. À la queue le-le. C'est le même nombre de pieds. Qu'est-ce qui se passe si on inversait les paroles et si on met les chansons? Je dis, les gars, ils l'ont fait.
C'est de l'enregistrement live.
Attention.
Allez, on fait le tour de la table. Allez,
mélangé.
C'est parti.
Ils ont mélangé à la queue le allumer le feu et la chenille. C'est ça qui est génial. C'est, tu vois les images des concerts, t'as des gens qui font la queue le sur du Johnny Hallyday, quoi. C'est énorme.
C'est vrai que les vidéos, quand tu les vois. Donc, à mon avis, vous pouvez les booker pour vos fêtes d'entreprise et passer un bon moment.
Vendredi prochain, ils seront sur la place François-Mitterrand. À midi et demi, il y a deux concerts. Midi et demi et 5h30. En fait, et la description de leur truc, c'est si Jean Ferrat, Boris, Johnny Hallyday, Jeanne Calment et Bézu et Shakira, et tous les musclés se réunissaient au même endroit et faisaient une partouze, et qu'un enfant naissait, ça, il se rappellerait sûrement autotune.
Bon voilà, s'il y a des membres d'Autotune qui vous écoutent, vous pouvez passer un dimanche sur Radio Campus.
Visuellement, au niveau costume, c'est un mélange entre... ils vont faire les rebuts du carnaval de Dunkerque. Tu peux avoir un Ronald McDonald à côté d'une bonne sœur sur la scène, etc.
Pourquoi tu me pointes du doigt avec la bonne sœur?
C'est un mélange des Fatal Picard ou Marcel et son orchestre. Enfin, on est dans...
On peut même pas
les passer en album découverte parce qu'il n'y a pas d'album. C'est vraiment que faut les voir en live. Quoi.
Ils auraient pu faire aussi, et on y échappe, l'inverse. C'est-à-dire garder les paroles de Johnny et...
Ah mais ils le font.
Ah, bon bah...
Ils le font.
J'ai rien dit alors.
Ils aiment bien faire du mash-up, des mélanges. Donc ça, par exemple, quand tu connais Magic System... Le groupe Magic System, tu connais le groupe System of a Down, donc ça donne Magic System of a Down.
C'est toujours le groupe Autotune. Allez les bleus!
Musicalement, il est sûr. En plus, il faut connaître les paroles de ces chansons-là.
Fallait pas le demander, c'est tout.
Non, hein,
fallait
pas. Le sous-titre de du groupe, enfin, ça pique aux yeux, mais c'est rien à côté de ce que ça fait aux oreilles. Donc, vendredi prochain après-midi, c'est gratuit, concert et sur l'esplanade François Mitterrand.
Voilà. Alors, je vous propose peut-être de continuer.
De se reposer les oreilles.
Dommage qu'il n'y ait pas de meilleure qualité qui font ce que des enregistrements live.
Alors, quand ils viendront en live dans l'émission, ça sera.
On les contactera. Voilà. L'invitation est lancée et il y en aura bien un de nous qui ira les voir en concert. Et on pourra leur parler pendant le tour de magie, avec un œil quand même discret. Alors, on va enchaîner, on peut continuer un peu sur Donjons et Dragons, on a quelques news insolites qu'il faudra continuer. Et Dominique.
Justement, Christophe se plaignait tout à l'heure de perte de mémoire. Ça tombe bien, parce que la DARPA, la recherche américaine, est en train de faire des tests. Ils ont investi des millions de dollars dans des tests pour implanter des puces dans les cerveaux des gens. Pour te permettre, moi ça m'intéresse personnellement parce que des fois, quand tu cherches un nom pendant des heures.
Donc tu parles d'une puce qui serait implantée de façon chirurgicale dans le cerveau.
Exactement.
C'est un peu ce qui fait peur à tout le monde, ça, non?
Ça me fait penser que j'ai lu aussi une news qui venait de la DARPA, je crois, il y a quelques temps, qui concernait un laser qui permet d'identifier des personnes à plusieurs centaines de mètres.
Grâce ça s'appelle des jumelles, ouais.
Non, mais grâce
aux des jumelles, connard.
Grâce au battement du cœur de la personne, je crois.
On est vraiment dans la série Person of Interest, je ne sais pas si vous vous souvenez, où c'était un peu de la science, c'était de l'anticipation plus que de la science-fiction, puis on voyait des ordinateurs super puissants qui utilisaient la moindre caméra, le moindre satellite pour repérer et traquer les humains. Ben, on est vraiment à quelques mois de cette...
Il suffit d'aller faire un tour en Chine aujourd'hui. Si vous êtes touriste et que vous allez en Chine, vous pouvez avoir votre téléphone qui est saisi pour y mettre, ajouter une application qui vous permettra de savoir... Enfin, d'avoir toutes les infos de votre téléphone et de vous tracer.
Donc, officiellement, cette recherche, ces puces, ça permet, c'est vraiment pour aider les gens qui ont subi des traumatismes, qui ont eu des accidents, etc., qui perdent des mémoires. Mais officiellement, c'est pour ces gens-là.
Après, voilà, ce n'est pas pour stocker des données que vous auriez oubliées, hein, loin de là. C'est plus dans le sens de médicaments bioélectroniques. Qui sont censés réparer des lésions. Alors peut-être par soi des petites impulsions ou autres. Je pense pas qu'on est encore capable, enfin qu'on n'est pas encore là de se connecter à des puces d'ordinateur et je veux bien qu'on te mette un GPS dans le crâne, mais de là à avoir des données qui sont lisibles depuis un cerveau, je pense qu'on n'en est pas encore là. Là, ça serait plus un traitement contre les lésions, peut-être à terme pour Alzheimer ou autre.
Une radio, je me fais une implantation, une radio. Comme ça, tu peux écouter Radio Campus.
Achetez la puce Campus 106.6.
Exactement.
Bon, vous n'avez qu'une fréquence, mais c'est pas grave.
Tu te cognes la tête partout parce que t'as l'antenne qui te traverse le crâne, c'est pour capter.
ne marche pas dans les parkings.
Ah oui.
Et on a plein de news insolites et notamment des news qui pourront vous aider éventuellement dans votre couple. Ah. Voilà, parce que nous, heureusement en France, on essaye de vous aider.
On pense au bien-être des gens.
Deux news un peu, j'ai envie de dire presque absurdes, vu le niveau. On a un homme qui a pendant des années trouvé un moyen pour éviter la communication avec sa femme.
Enfin, pour éviter de... Enfin, pour éviter. Pour rester en couple avec sa femme. C'est surtout ça qu'il a fait.
Donc, lorsqu'il a remarqué qu'il allait que son couple battait un peu de l'aile.
Si ça continuait comme ça, parce que sa femme était, on va dire, très bavarde, très prenante, on va dire.
Alors, voilà, si vous, chez vous, votre femme est trop bavarde, et ou que, votre homme, ça marche voilà, dans les deux sens.
Et que vous êtes plutôt taciturne, hein, que vous, le matin, un café, c'est tout, point, quoi, pas autre chose.
Vous n'avez pas envie que toutes les 5 minutes, on vous appelle.
Pourquoi ne pas essayer de faire comme si vous étiez muet et de prétendre que vous avez attrapé une maladie qui vous rend muet et le faire pendant plus de 62 ans? C'est
mais
assez.
Tu fais pendant. Non, mais là, donc le couple est âgé, ils ont 80 et 84 ans et depuis 62 ans, elle croit que son mari est sourd et muet.
Waouh!
J'applaudis le cœur.
Le mec a préféré pendant plusieurs années apprendre le langage des signes que de parler avec sa femme.
Mais c'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant parce que t'imagines, mais t'as vite fait, c'est une erreur.
Mais est-ce que quand il est plus avec sa femme, il parle?
Ah oui, tout à fait.
Ah oui,
c'est comme ça qu'il s'est fait griller d'ailleurs.
C'est fou, t'imagines?
Ça a mis 62 ans. Donc à 84 ans, elle s'est rendue compte du subterfuge à demander le divorce.
Il y avait des occasions incroyables. Enfin, il suffit qu'il ait un accident, etc., ou qu'elle ait besoin d'urgence, puis elle l'appelle en urgence, puis lui, sans faire après, il se retourne et répond oui. Eh, mais comment tu m'entends maintenant? Enfin, c'est terrible, quoi. Mais 62 ans, il a réussi à se faire passer pour sourd et muet avec une personne qu'il voit tous les jours. C'est impressionnant.
Et ça se passe dans quel pays?
À ton avis?
Au Texas.
Non, c'est dans le Connecticut, mais c'est pareil.
Voilà.
Le pire, c'est que tu as la personne qui demande le divorce en disant voilà, préjudice subi, demande des sous, la totale, quoi. La moitié des biens, tout ce qu'il faut. Tu as quand même l'avocat qui fait oui, vous voyez, la famille, là, elle a quand même. Je vais dire une bêtise, mais 6 petits-enfants, je ne dois pas te rendre du compte, 6 enfants, 12 ou 13 petits-enfants, et s'il n'avait pas joué à ce petit jeu-là, le couple n'aurait pas tenu. Donc voilà, en fait, grâce à lui, vous avez eu une belle famille et une belle vie. Et là, le juge doit débattre avec ça. Démerde-toi. Vous avez 2 heures.
Passer 62 ans à t'engueuler tous les jours avec ta femme et rester ensemble ou faire semblant de n'être sourd. Enfin,
non, mais ce qui serait. On peut du coup se poser la question.
C'est que quand elle l'engueule, il fait je comprends pas alors qu'il comprend très bien.
Ça pourrait faire un très bon épisode de Black Mirror, sauf que c'est dans la réalité.
Mais on peut se poser la question de savoir combien de cellules dormantes. Aujourd'hui, aux États-Unis ou ailleurs, de maris font la même chose.
C'est surtout que tu as plein d'hommes et de femmes dont le conjoint est sourd et muet, qui commencent à se demander, mais en fait, il est vraiment sourd et muet ou pas, et qui font, ils claquent des ballons derrière eux pour faire des tests, peut-être.
Ils piquent un membre avec une aiguille pour voir comment il va réagir s'il gueule ou pas. Quoi.
Cela dit, il y a pas mal de. Enfin, pas mal. Il y a des gens qui fraudent pour avoir des
indemnités. Ah oui, est-ce qu'elle a eu des aides de l'État? C'est ça le truc.
Mais... Et donc, il y a aussi des gens qui doivent enquêter pour essayer de savoir si justement on va suivre. On va engager un détective privé.
Il y a des inspecteurs
pour...
qui font passer des interrogatoires pour faire pour savoir si t'es vraiment... Si t'es vraiment sourd et muet, c'est pas mal.
Est-ce que vous êtes vraiment muet? Oui. Merde.
Comme dans les ch'tis où t'as Kadmerat qui fait semblant d'être dans un fauteuil roulant pour avoir un meilleur poste, etc. C'est le même principe. Je suis sûr que maintenant, tu croises les gens qui ont croisé, qui vivent avec des gens en fauteuil roulant, ils les ont poussés dans l'escalier pour voir s'ils réagissaient.
Il a dû déménager au Texas. Il a dû quitter le Connecticut.
Le Texas n'est jamais loin quand il y a des histoires comme ça.
Autre possibilité, vous n'êtes pas obligé de vous rendre sourd et muet. Mais
comme par hasard, c'est un homme dont la femme est très bavarde et qui a pas envie de. Il a fait comment,
lui? Mais cette fois-ci, lui, il reçoit beaucoup de messages.
Ils
utilisent WeChat, non pas les SMS. Et comme c'est un développeur, il s'est dit tiens, pourquoi je ne créerais pas un chatbot pour communiquer avec ma femme et pouvoir lui répondre 24 heures sur 24?
C'est génial.
Et c'est ce qu'il a fait, et il certifie que cela va rendre sa copine heureuse.
Et puis à force, dans 62 ans, elle va s'en rendre compte qu'elle parlait avec un chatbot, puis en fait elle va divorcer avec lui, mais en fait je suis tombé amoureuse de ton chatbot, mais pas, toi je t'aime pas, je préfère l'ordinateur.
Mais c'est du texte ou c'est vraiment...
C'est du texte. Oui,
ouais, alors pourquoi je pose la question, c'est qu'aujourd'hui avec les progrès,
c'est vrai.
On commence à... Il y a notamment un informaticien américain qui a... essayer de synthétiser sa voix et avec les progrès donc on commence à pouvoir rendre écrire un texte avec un logiciel et de pouvoir faire prononcer par le logiciel avec sa propre voix. Et donc il avait fait un test en appelant sa mère et ça avait marché. Alors bon, c'était une conversation très très courte, mais finalement peut-être que d'ici quelques années on aura une news qui nous dira que
d'ailleurs la semaine prochaine Reynald t'es pas là hein, ben on va te remplacer par un chatbot.
Ah, ce serait pas mal. Fais-nous une petite banque.
Je suis pas déjà le chatbot de la semaine d'avant.
Oh mince. Et pour la bonne cause, si vous voulez, vous pouvez donner votre voix pour la fondation Mozilla qui est derrière le navigateur Firefox qui cherche à avoir des voix en français et dans d'autres langues, donc des personnes qui vont prendre la parole et s'enregistrer pour pouvoir permettre la production d'un outil open source qui permettra de faire ce que font les marques, enfin les grands acteurs américains, mais sans passer par des solutions.
Oui, en France aussi, tu as des sociétés qui font des livres audio et tu peux être bénévole pour faire des livres audio pour les vrais non-voyants.
Est-ce qu'on peut choisir son texte aussi? C'est ça le plus important.
Ah, oui, on se demande ce que tu vas lire. Hein.
Non, je parle pour me dire. Non, pas cette adresse-là, cochonou. Rentre une autre adresse.
Je vous propose d'écouter encore un peu de musique avec...
On a écouté de la musique pour l'instant. Moi, je suis méchant.
Alors Dom, je sais que tu m'as dit, j'ai ramené des albums assez spéciaux.
Ah bon ? Non, j'ai ramené un morceau particulier qui va vous faire plaisir.
Oui, j'ai l'impression que c'est ironique quand tu dis ça.
Non, tu vas voir.
Alors, j'ai la numéro 9 ou 10 ?
Alors, c'est la 9. Tu passes la 9. C'est un morceau que vous avez forcément entendu depuis quelques semaines. C'est un morceau qui passe sur toutes les radios. Même Radio Campus a dû le passer. C'est l'un des morceaux de l'été qui va passer dans toutes les discothèques. Tu peux l'entendre à la caisse.
Je pense pas que c'est passé ici, mais nous, on le passe. C'est Bruno Mars ?
Pas du tout. Il y a un petit peu de ça. Non, c'est Lizzo. Le morceau, c'est Juice. C'est un morceau qui passe absolument partout.
Attends, mais pourquoi on écoute de la musique de l'été, Dom ?
Est-ce que t'as pas l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part ? Moi, j'ai entendu ce morceau, je me dis, bon, c'est une rappeuse, elle a été samplée plein de morceaux, etc. Je suis allé rechercher et il n'y a aucune référence. Mais moi, je reconnais absolument.
C'est la tu voix ou c'est la musique ?
La musique.
Il y a des sonorités, mais.
Tu as repéré du plagiat sur un
plagiat,
tube
je ne sais pas, mais. Ça m'a rappelé terriblement.
Une inspiration douteuse.
Et pourtant, t'aurais dû reconnaître quand même. Tu devrais savoir à quel moment je pense, à quel morceau
Mister
je pense.
Mr. T.
Parce que le numéro 10.
Alors là.
Alors ça.
Tu vois Reynald qui regarde en disant, mais ça n'a rien à voir.
Ah ouais.
Moi, je dis rien, moi.
Moi, tant qu'on passe du Mr. T à la radio, moi, je suis content.
Ah oui, c'est flagrant.
On va s'imprégner, on reviendra à l'autre. Que j'ai un doute. On n'a pas le droit de plagier Mr. T.
On
n'a
pas le droit de parler sur du Mr. T.
Are you willing to try. Everybody stand up. Why? Cause you gotta go through it. If you wanna get to it, are you willing to try? Yeah!
Ça me fait toujours plaisir d'écouter du Mr. T. D'ailleurs, on fera un mash-up avec le tube de l'été. Je pense que, Christophe, tu avais quelques petites dernières précisions sur ce dossier Donjons & Dragons qu'on ne clôturera pas.
Enfin, on pensait l'avoir fini cette semaine, mais
oui, je me dis quand même, c'est, quand on parle d'une série, c'est bien de raconter un petit peu quand même qui sont les personnages. Et même si on connaît Donjons et Dragons, dans la série animée, ils sont si jeunes, donc ils vont être dans cette aventure. Donc Hank, qui est capable, il a un arc qui jette des flèches magiques. Diana, qui elle peut se... Elle a un bâton magique aussi qui permet d'aller.
Je vais essayer de compléter en langue de rôliste. Alors le premier c'est le ranger, le deuxième donc Diana, ça serait l'Amazon.
Ouais. Ensuite Sheila qui est plutôt timide, elle a une cape magique qui donc, d'invisibilité.
La voleuse, la roublarde.
Alors Bobby lui il a un casque de Viking sur la tête, c'est le plus jeune. Il a une massue.
C'est daté quand même. Bobby, Sheila. on voit à quelle époque on est. Donc,
le barbare.
Alors Presto c'est le magicien, lui il a une tunique
et des lunettes vertes. C'est l'intellectuel du groupe, il a des lunettes.
Étonnamment, ça serait le magicien.
Voilà et à chaque fois qu'il essaye de faire un tour, généralement il se plante sur ce qui sort de son chapeau. Ensuite Eric lui c'est le peureux. Alors je sais plus quel est son pouvoir mais
bon, il a un bouclier. Bouclier qui défend.
Ah oui, c'est ça, tout à fait.
Ouais. Il est plus en charge du paladin, on va dire ça comme ça.
Donc le grand maître, on en a parlé, c'est le petit vieux qui leur... C'est le Yoda local. Et Venger, c'est le grand méchant de la série qu'ils vont devoir affronter à plusieurs reprises. Sans oublier le Tiamat, qui est le dragon à cinq têtes, rien que ça. Ah.
Qui a le même nom dans le jeu de rôle. Donc j'y pense.
Voilà, et puis il y a d'autres personnages, notamment certains qui sont tirés du jeu de rôle.
Voilà, si vous avez envie de vous replonger, au moins vous connaîtrez maintenant les personnages. D'autres news Donjons Dragons où on enchaîne sur des petits jeux mobiles qui vont sortir prochainement.
Oui, le jeu mobile, c'est le 10, un retour d'un jeu. Oh là là, tu vas nous passer la musique, ça va rappeler des souvenirs. Oh mon dieu, ça y est, je ferme les yeux, j'y joue.
Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ils disent, mais...
Classique. aussi sur la première Game Boy, la verte là, avec l'écran mono-écran et tout, Dr Mario.
Sur la NES et SNES aussi. Oh,
mais la première, voilà, moi j'ai joué sur... Mais j'ai détesté les Mario tout court, les jeux de plateforme. J'ai jamais joué, je peux pas les saquer. Mais Dr Mario, il fallait... C'est, en fait, Docteur, parce qu'il y a des petites pilules, et il fallait, en assemblant les pilules à la façon de Tetris, tu détruisais des virus, etc. Tu marquais
c'est
des
un peu le Match 3, hein, c'est un peu le Candy Crush de l'époque, mesdames, messieurs.
Et donc ça sort le 10, donc mercredi, retour de Dr Mario World.
Alors c'est vrai que
téléphone et compagnie, PlayStation, iOS.
Nintendo avait annoncé quelques années qu'il voulait se lancer en voilà dans le jeu mobile, notamment avec des systèmes d'éventuellement de free to play, mais avec on avait eu d'ailleurs un premier Mario, le Mario, hein, qui avait été fait sur Android, qui est extrêmement jouable et bien fait, mais qui est extrêmement cher.
Alt.
Et voilà, on a beaucoup d'appréhension quant au système de financement qu'il y aura sur Dr Mario World. Vu qu'on parle de multijoueurs, j'espère vraiment qu'on sera sur un free-to-play avec des goodies à acheter, un peu comme dans la majorité des gens. Vous voyez, je vois, Reynald, que tu fais un regard
Bah après, tout ce douteux. Qui est Mario et autres postiches de Nintendo, à chaque fois, ça plante. Enfin, non. Ils ratent toujours leur coup à ce niveau-là, au niveau application.
Moi, cette musique.
C'est
terrible. Mais des fois,
on voit que t'as passé beaucoup trop de temps.
Des fois, je mettais le jeu puis je jouais pas, j'écoutais la musique.
On pourrait se demander si c'était ça la musique de l'été. Si elle remixait.
Ah, pas mal.
Ça me donnerait quelque chose de très innovant.
Faire du mashup de musique il y a 30 ans. Il y a quand même 30 ans ce jeu, c'est impressionnant. Et ma Game Boy, je crois qu'elle marche encore.
Voilà, vous êtes peut-être déjà pré-enregistré pour recevoir la notification quand vous pouvez installer ce jeu.
Oui, moi j'attends, moi. Le 10, mercredi.
Alors, au moins, Nintendo, il te sort pas d'alpha, de bêta, c'est voilà, c'est sorti, ça joue. Je pense que ça va être fort sympathique, je pense que ça va rappeler beaucoup de souvenirs. On croise les
J'espère
doigts.
Qu'il y aura les musiques de cette musique-là.
On passera les musiques dans le prochain épisode.
J'étais en train de me demander, mais pourquoi le sourire du dragon? Est-ce qu'on a déjà vu un dragon sourire? Et qu'un dragon qui sourit, ça donne
oui,
quoi?
Mais c'est la dernière chose que tu vois de ta vie.
Ah, c'est peut-être ça le clin d'œil.
Vu qu'on parle de Mario, il y aura aussi un Mario Kart qui va être adapté pour les mobiles.
Quand un film Mario Kart. Voilà.
Arrête de donner des mauvaises idées aux gens. Je pense que ça a été. Je pense quand ils ont fait le film Pixel, ils ont dit à tout le monde, ok, on a tout fait, maintenant c'est bon.
Voilà.
On a fait le kart, on a fait Pac-Man, on a fait ça.
On ne touche plus.
Vous avez vu le résultat, c'est pas top. on signe, on arrête. Oui, je sais, Christophe, il y aura peut-être un Pixel 2, c'est ça hein.
Mais écoute, je n'ai pas vu le 1, je pense que
chance.
Je peux m'en féliciter.
La chance que t'as.
Non, il n'y a pas de raison, il faut que tu le vois aussi.
Je pense
on a
que
tous souffert, vas-y.
Moi, je dis, non, mais transition pour une petite news. On est au Japon, on parle de voiture.
Ah,
Mario
effectivement.
Kart.
Et oui. C'est une info qui est vraiment liée au système de location de voiture hein, qui est en pleine expansion, enfin qui marche effectivement assez
bah,
bien.
Partout, hein, même enfin, à Paris, tu as des voitures en location, des voitures électriques que tu peux louer et que tu déposes, un peu comme les Vélib, sauf que c'est des voitures.
Et du coup, bah, tu as des prix de voiture qui deviennent très, très intéressants, surtout si derrière tu ne fais pas trop de kilométrage, eux sont contents. Mm-hmm. Et il y a justement des gens qui font ça.
Au Japon ?
Ils ne font pas beaucoup de kilométrage, voire pas du tout.
Il faut savoir qu'au Japon, le prix du loyer, déjà les places sont limitées, c'est pas un grand pays, il y a beaucoup de monde, de plus en plus de monde, et il y a ce qu'on appelle des salarymen hein, qui sont dans la journée, ils ont besoin de trouver un endroit, ils ont acheté leur sandwich et où ils n'ont pas de place pour aller le manger, et ou le soir ils veulent faire une sieste avant de repartir au travail, etc. Plutôt que de louer une chambre d'hôtel hors de prix, etc. Ils disent tiens, je vais louer une voiture puis je vais dormir dedans, ou je vais louer une voiture pour une heure et je vais manger dedans, je vais pique-niquer, etc. Ils s'en sont aperçus, la société s'en est aperçue parce qu'effectivement ils remarquaient qu'il y avait plein de voitures qui étaient louées, mais le kilométrage ne bougeait pas. Du tout, enfin, c'était zéro quoi.
Et elle sentait un peu mauvais la voiture.
J'irai pas jusque là, mais.
Donc voilà, vous.
Non, les Japonais, oh, les poncifs sont des gens propres quand même. C'est pas comme en France où tu récupères une voiture louée après quelqu'un, tu peux aller. Non.
Vous avez du mal au boulot à trouver la pièce pour vous reposer sans que personne vous dérange ? Louer la voiture ? Mettez-le au garage ?
Faut plus faire de bureau, faut faire que des voitures et des parkings. Et après, tu fais les voitures, tu n'as même plus besoin de mettre de roues dedans, c'est nickel.
D'ailleurs, ça s'appelle des mobilhomes.
Voilà, tu fais que des mobilhomes.
En petite parenthèse, hein, encore qui n'a rien à voir, mais je vois qu'on commence à avoir des voitures qui fonctionnent bien sûr électriquement, mais maintenant on va les recouvrir de panneaux solaires. Oh. Donc il y a des sociétés qui sont en train de tester ça. Alors bien sûr, hein, faut pas croire que vous allez rouler juste avec le soleil, mais justement pour régénérer un peu la magie.
Ça va servir à alimenter l'autoradio.
Ouais, c'est déjà ça de gagner, hein, si tout le monde fait ça.
Et c'est vrai que sur l'énergie, c'est un sujet vraiment très important d'un point de vue économique, puisqu'on consomme de plus en plus d'énergie et il y a beaucoup d'évolutions dans ce domaine. Et on commence à voir arriver la notion de véhicule to grid, qui va être la capacité que les gens vont produire chez eux avec des panneaux solaires ou d'autres moyens de l'énergie. Donc non plus de l'énergie qui viendrait de l'extérieur comme EDF, et pourraient du coup s'en servir pour réalimenter leur véhicule.
Ben, j'espère qu'on va déployer ça.
Et surtout qu'en plus, maintenant, dans les routes, tu vas pouvoir faire des routes spéciales avec des capteurs dedans. Et quand tu marches dessus, tu marches sur le trottoir ou tu roules dessus, ça produit de l'électricité. Ça va être compliqué. Alors, tu vas consommer de l'électricité, mais en même temps, tu vas en produire et tu vas en récupérer par le soleil.
Je pense malheureusement.
Sauf c'est.
Ça peut faire un bon sujet.
Sauf si tu loues ta voiture juste pour manger ou dormir, à ce moment-là, t'as pas compris, tu fais pas partie de l'équation.
Mais je pense qu'on a 10 ans, 15 ans de retard sur le développement énergique, comme ça.
Hein. On a 200 ans d'avance sur, sur les problèmes de disparition d'espèces en même temps.
Ouais, de climat.
On peut pas être bon partout. Hein. on a un score, on s'y tient. On est fiers.
Alors, on va bientôt se quitter. Comme musique de fin, Dom nous a préparé une...
Bon, écoute, la semaine dernière, comme des morceaux de tiens, on a passé du Kraftwerk. Comme on avait parlé de Tchernobyl, on a passé Radioactivité. Puis l'actualité du week-end, c'est quoi?
Le Tour de France.
Il y en a un qui suit. Tour de France.
Je pensais à mes vacances, mais bon, tant pis. D'accord, Tour de France.
Alors, okay. On est dans l'émission Heureusement en France, on ne se drogue pas, et on va parler du Tour de France.
Non. Je sais.
Tout le monde sait que dans le sport, on ne se drogue pas.
Exactement.
Ou pas son insu.
Et qui va regarder le Tour de France d'ailleurs, parmi vous?
Nope.
Je passe.
Voilà, moi j'ai l'impression que les gens regardent le Tour de France juste parce qu'ils passent à côté de chez eux et qu'ils veulent voir leur maison.
Alors, moi j'ai lu que France 2 allait peut-être perdre les droits du Tour de France parce que ils se disent tiens, on pourrait peut-être gagner de l'argent. Enfin, aller voir les autres chaînes pour leur proposer. Et donc là, peut-être que c'est la dernière année que c'est diffusé sur les chaînes publiques.
Oh, quel dommage. Voilà, c'était la fin de cette émission Heureusement en France. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission sûrement musicale où on verra de toute façon.
Pour la suite du Donjons et Dragons.
N'hésitez pas, on a un site internet anotherpodcast.fr et aussi sur le Facebook de l'émission. Et si vous cherchez et que vous êtes curieux, il y a peut-être un Twitter.
Faut bien chercher.
Et on se quitte avec Kraftwerk. J'espère que ça ne sera pas une habitude pour tous les fans de morceaux.
Tour de France.
Le clip de cette musique, c'est vraiment en référence au Tour de France. C'est pas juste pour la beauté de la France.
Voilà, à la semaine prochaine. Ciao.
À plus.
D'aller en grand braqué, Tour de France, Tour de France, Sprint. Camarade,